Il est 7h et le journal est présenté par Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Benoît, bonjour à toutes et à tous. Les Gilets jaunes se sont rappelés au bon souvenir du gouvernement. Hier, 14 juillet, le défilé militaire a été émaillé d'incidents. 175 personnes ont été interpellées sur ou autour des Champs-Élysées. Nous y reviendrons.
Les syndicats de l'éducation nationale et les parents d'élèves sont toujours très remontés contre leur ministre. Après les tensions au moment du bac et de ses résultats, Jean-Michel Blanquer continue ses consultations.
Et puis les accords commerciaux entre l'Europe et le reste du monde, ils n'ont plus la cote. Et pas seulement en France, nous irons en Argentine où la défiance est de mise contre l'accord UE-Mercosur. C'était la première célébration du 14 juillet après le mouvement des Gilets jaunes qui se sont invités hier sur les Champs-Élysées pour rappeler leur présence malgré la fin ou la quasi-fin de leur manifestation du week-end. La parade militaire a été émaillée de sifflets avant des échauffourées plus violentes ensuite et une série d'interpellations. À 17h, 175 personnes avaient été interpellées selon un bilan de la préfecture de police de Paris. Quelques dizaines de manifestants avaient occupé en milieu d'après-midi le haut de l'avenue des Champs-Élysées ouverte au public. Le reportage de Justine Leclerc.
Des poubelles brûlées, des barrières métalliques renversées, gilets jaunes et black blocs sont sévis sur les Champs-Élysées. Des gilets jaunes venus de Normandie, de Bretagne ou encore d'Eure-et-Loire.
On s'était promis de pourrir le 14 juillet à Macron. On le pourrit, on est content.
Le but aujourd'hui, c'est déjà de signaler que les gilets jaunes, on lâche rien, on est toujours là, parce qu'on n'a rien eu. Le frigo est toujours aussi vide, et quand on a un certain ministre qui se paye du caviar, je suis allé ou du homard, ouais. On se dit, purée, ils se foutent vraiment de notre gueule.
Pour disperser les groupes de manifestants, CRS et gendarmes mobiles ont tiré à plusieurs reprises du gaz lacrymogène, colère et incompréhension.
Bah, l'ambiance, elle est électrique, hein, ça se voit, je veux dire, voilà quoi. Ça gaz de partout, alors qu'il y a des touristes, il y a des enfants, ils chargent.
Ce restaurateur près de l'Arc de Triomphe a dû fermer hier dans l'après-midi.
Exactement, vers 14h30, j'avais la terrasse, tout le monde est parti en courant parce que tout le monde pleurait à cause du gaz. Et bon, c'est normal qu'il y ait eu le gaz, hein, parce qu'il fallait bien les pousser ailleurs. On ne pensait pas qu'il y avait autant de gilets jaunes, plus les black blocs.
C'est la première fois depuis le 18 mars dernier que les gilets jaunes sont retournés hier sur les Champs-Élysées.
Des chants qui ont connu des tensions également plus tard dans la soirée, à l'issue de la victoire de l'équipe d'Algérie en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les forces de l'ordre ont là encore utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Des scènes de joie qui se sont transformées en affrontements également dans le centre de Lyon, à Vaux-en-Velin ainsi qu'à Marseille. Un peu plus tôt dans la journée, le chef de l'État avait appelé à renforcer l'Europe de la défense, une des priorités de la politique étrangère d'Emmanuel Macron. Un discours opéré devant 9 dirigeants européens, la chancelière allemande, le premier ministre des Pays-Bas et le président portugais notamment. Un 14 juillet qui n'est pas encore le signe de la pause estivale pour le gouvernement. Plusieurs gros dossiers sont sur la table, notamment cette semaine la réforme des retraites qui sera présentée jeudi à Matignon et aux partenaires sociaux. Et puis à l'éducation nationale, la crise ouverte au moment des épreuves du bac n'est pas encore close. Le ministre de l'éducation nationale consulte en ce moment, depuis vendredi et jusqu'en milieu de semaine, il reçoit les fédérations de parents d'élèves et les organisations syndicales. Si le calme est revenu, le ressent sentiment entre Jean-Michel Blanquer et ses administrés est toujours très fort. Sa réaction au moment de la publication des résultats du bac, sa référence notamment à une prise d'otage, a braqué presque tout le monde contre lui. Les précisions de Sonia Princet.
Les propos du ministre ont choqué toute la profession, y compris ceux qui n'étaient pas en grève au moment du bac. L'urgence est d'écouter ce que les professeurs ont à dire, notamment sur la réforme du lycée, selon Stéphane Crochet, secrétaire général du syndicat des enseignants de l'UNSA.
Le dialogue est difficile depuis le début du quinquennat. Le ministre a beau dire qu'il reçoit et qu'il consulte beaucoup. En effet, il y a beaucoup de réunions, mais assez peu de prise en compte, assez peu d'écoute. Nos collègues sur le terrain ne sont pas opposés par principe. Ils disent, ils décrivent, ils préviennent des difficultés qu'ils voient arriver. Et le ministre, jusque-là, les a balayés d'un revers de la main. Donc, il est temps de remettre un peu d'apaisement dans ce ministère.
Les syndicats attendent non seulement un changement de ton, mais aussi des engagements précis. Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES, espère que le ministre sera plus conciliant et qu'il donnera des garanties sur deux points.
D'abord, sur la construction du budget, bon, ça ne dépend pas que de lui, évidemment, puisque ça, c'est une politique gouvernementale, mais que, évidemment, nous ne retrouvions pas des suppressions de postes à la rentrée 2020, comme on l'a vécu pour cette rentrée, qu'il s'engage également à ce que, véritablement, on puisse remettre à plat la réforme du lycée et du baccalauréat, ce qui ne veut pas dire pas de réforme, mais qu'on regarde ce qu'il faut changer et faire évoluer les choses.
Les organisations de l'éducation souhaitent aussi une revalorisation salariale, promise depuis longtemps.
Sonia Princey.
5 sur France Culture, la suite du journal d'Anne Lorchouin. Le CETA sera-t-il ratifié cette semaine par les députés français? Cet accord commercial en vigueur à titre provisoire depuis 2 ans déjà doit encore être approuvé par plusieurs pays de l'Union européenne. Et pour ce qui concerne la France, les débats sont vifs, Anne-Laure.
Oui, les traités commerciaux de libre-échange ont beaucoup moins la cote, effectivement, auprès des opinions publiques, alors que leur négociation a été initiée il y a parfois des années. C'est le cas, par exemple, pour le traité négocié depuis 20 ans et signé récemment entre l'Union européenne et le Mercosur. S'il a provoqué la colère notamment des agriculteurs en Europe, il fait aussi grincer des dents en Amérique du Sud pour des raisons différentes. En Argentine, par exemple, les industriels sont particulièrement inquiets face à ce qu'ils considèrent comme une invasion du marché argentin par des produits manufacturés européens. Les explications de la correspondante de France Culture à Buenos Aires, Caroline Vic.
Dans les secteurs du textile, de l'automobile, des machines, dans l'industrie en général, l'accord de libre-échange est vu comme une menace. Peu compétitif, écrasé par les impôts et les coûts logistiques et financiers, les industriels voient d'un mauvais œil la perspective d'importation massive de produits de meilleure qualité et moins chers. Pour bien comprendre cette inquiétude, l'économiste Manuel Adorni nous donne l'exemple d'une boîte de sauce tomate.
Une boîte de sauce tomate vaut 90 centimes de dollars en Italie. En Argentine, elle vaut 1 dollar. L'industriel argentin va clairement être en dehors du marché. Combien on a d'inflation en Europe? 2% en moyenne. En Argentine, on a 55% d'inflation par an. Le producteur de sauce tomate en Europe, à quel taux se finance-t-il? À 0%. Le producteur argentin, à 90%. Coût financier total réel. Si à cela, on ajoute la pression fiscale, l'Argentine, en soi, n'est pas du tout compétitive. D'où la colère, le malaise et l'inquiétude de certains secteurs.
Préoccupation donc des industriels face à cet accord de libre-échange qui s'ajoute à la crise économique en Argentine. Au contraire, dans le secteur agroalimentaire, on crie victoire, tout comme le président Macri, qui avait fait de cet accord l'un des objectifs de son mandat. Et à 3 mois de l'élection présidentielle, face à un opposant prônant plutôt le protectionnisme, Macri en fait aujourd'hui l'un de ses principaux arguments de campagne.
Caroline Vic, l'Iran se dit prête à négocier si les États-Unis lèvent leurs sanctions et redeviennent partie prenante de l'accord sur le nucléaire de 2015. Déclaration à nouveau du président iranien Hassan Rouhani hier. Alors que 3 dirigeants européens ont appelé dans une déclaration commune à une désescalade des tensions au Proche-Orient pour préserver ce même accord de Vienne en 2015. On y reviendra dans notre journal de 8h. En Afrique du Sud, c'est l'heure des explications. L'ex-président Jacob Zuma, poussé à la démission l'année dernière à cause de plusieurs scandales de corruption, va comparaître devant une commission d'enquête. Il est accusé d'avoir généralisé la corruption au sommet de l'État, notamment via sa proximité avec la famille indienne des Gupta, avec laquelle il aurait détourné des milliards d'euros. Les explications sur place de notre correspondant Noé Hochet-Baudin.
L'Afrique du Sud attendait ça depuis sa démission en février 2018. Jacob Zuma est sommé d'expliquer son rôle dans plusieurs scandales de corruption, non pas devant la justice, mais dans un premier temps devant une grande commission nationale. Une commission d'enquête qui a vu défiler des dizaines de ministres et hauts fonctionnaires depuis plus d'un an. Mais le suspect numéro 1, c'est lui, Jacob Zuma, au centre des accusations, dans ce que l'on appelle ici le grand scandale de corruption généralisée à la tête de l'État. En l'occurrence, des pratiques de pot de vin, de trafic d'influence et surtout de détournement de fonds sous l'ère Zuma. En particulier dans le viseur de la justice, des milliards d'euros qu'il aurait détournés pendant ses 2 mandats avec l'aide de la famille indienne des Gupta. Le témoignage de Zuma est à tout point de vue exceptionnel. C'est une première pour un ancien président en Afrique du Sud. Mais ce serait mal connaître Jacob Zuma que de l'imaginer répondre à toutes les questions de la commission. Le sulfureux ancien président est connu pour sa roublardise, en particulier face à la justice. Il nie toute implication dans ces scandales et qualifie la commission d'enquête d'impartiale. L'ancien président se défend. La corruption généralisée à la tête de l'État n'a jamais existé, a dit Jacob Zuma. Pour le soutenir ce matin, il peut compter sur la présence d'environ 5 000 personnes à Johannesburg.
Un mot rapide de la météo, il fera beau ce lundi sur presque tout le pays, sauf sur le sud-est où des orages sont annoncés, des Alpes à la Côte d'Azur et en Corse. Météo France appelle d'ailleurs à la prudence. Les précipitations seront parfois importantes sur les Alpes du Sud et sur le nord de la Corse. Partout ailleurs, journée estivale et température 9 à 22 degrés ce matin, de 20 à 34 degrés du nord au sud cet après-midi.